Ainsi que l'on se nourrit de pain et de viande, Hugo se repaît d'humanité et de fraternité. Le 14 août 1848, 8 jours après le départ du premier convoi qui transportait 581 insurgés, il fonda, à côté de la Réunion de la rue de Poitiers, la Réunion de la Fraternité. La peur de perdre leur cher argent, que les Pereire et les Mirès de la finance impériale devaient confisquer si allègrement, avait enragé les petits bourgeois de 1848. La presse honnête et modérée racontait sur les insurgés des histoires épouvantables. Maisons pillées, mobiles sciés entre deux planches, crânes qu'on emplissait de vin et qu'on vidait en chantant des obscénités. Hugo savait que si les insurgés envahissaient les maisons, ils ne les pillaient pas. Il les avait vus se battre en héros. La simple humanité lui commandait de protester contre ces idiotes calomnies et d'essayer d'apaiser ces bourgeois apeurés réclamant une impitoyable répression. Mais la fraternité hugoïste n'était pas de composition si humaine. Elle n'entendait pas suspendre l'action des conseils de guerre, mais tempérer l'œil du juge par les pleurs du frère, et tâcher de faire sentir jusque dans la punition la fraternité de l'Assemblée. Événement numéro 14. Et dans presque tous les numéros, l'événement continuait à exciter les colères et les peurs contre les vaincus. Note. Cette fraternité pleurarde de crocodile reprocha à un poète qui ne se dégrada jamais jusqu'à pincer de la guitare philanthropique à Alfred de Musset d'avoir envoyé aux victimes de juin un prix de 1300 francs que venait de lui accorder l'Académie. L'événement du 23 août commentait ainsi l'acte. Qu'il nous soit permis de faire observer à M. de Musset que sa détermination ne remplit nullement le but du legs fait par M. le comte de La Tour-Landry. C'était à un poète peu favorisé de la fortune et non à une œuvre patriotique que le don devait appartenir. Fin de note. La liberté était un des pégases qu'enfourchait Hugo. Mais il faut être par trois fois prud'homme pour ne pas s'apercevoir que le pégase hugoïste était trop gonflé de vent pour prendre le mort aux dents et lancer des pétarades. La fougueuse liberté de Hugo était un humble bidet qu'il remisait dans l'écurie de tous les gouvernements. Depuis l'immortelle révolution de 1789, liberté, liberté chérie, était le refrain à la mode. Tous les politiciens depuis Polignac jusqu'à Napoléon le Petit l'ont répété sur tous les tons. Hugo le chantait à plein gosier quand il approuvait le cautionnement qui amputait du corps social la liberté gangrénée de la presse. Hugo planta dans ses vers la rouge cocarde de l'égalité. Mais il y a égalité et égalité, comme poète et poète. Il en existe autant que de morale. Toute classe, tout corps social fabrique à l'usage de ses membres une morale spéciale. La morale du commerçant l'autorise à vendre sa marchandise 10 et 20 fois au-dessus de sa valeur, s'il le peut. Celle du juge d'instruction l'incite à user de la ruse et du mensonge pour forcer le prévenu à s'accuser. Celle de l'agent de mœurs l'oblige à faire violer médicalement les femmes qu'il soupçonne de travailler avec leur sexe. Celle du rentier le dispense d'obéir aux commandements bibliques. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La mort établit à sa façon une égalité. La grosse et la petite vérole en créent d'autres. Les inégalités sociales ont mis au monde deux égalités de belle venue. L'égalité du ciel, qui pour les chrétiens compense les inégalités de la société, et l'égalité civile. Cette très sublime conquête de la Révolution sert aux mêmes usages. Cette égalité civile, qui conserve aux Rothschild leurs millions et leurs parcs, et aux pauvres leurs haillons et leurs poux, est la seule égalité que connaisse Hugo. Il aimait trop ses rentes et les antithèses pour désirer l'égalité des biens qui, du coup, lui eût enlevé ses millions et dérobé les plus faciles et les plus brillants contrastes de sa poétique. Bien au contraire, l'événement du 9 septembre 1848 prenait la défense du luxe que calomniait la fausse philanthropie de nos jours et démontrait triomphalement la nécessité de la misère pour arriver à l'équilibre social. L'opulence oisive est la meilleure amie de l'indigence laborieuse, développe le journal hugoïste. Qui est-ce qui fournit à la richesse ce ruineux superflu? Cette recherche, ce colifichet dont se composent la mode et le plaisir, le travail, l'industrie, l'art, c'est-à-dire la pauvreté. Le luxe est la plus certaine des aumônes, c'est une aumône involontaire. Les caprices du riche sont les meilleurs revenus du pauvre. Plus le salon aura de plaisir, plus l'atelier aura de bien-être. Mystérieuse balance qui mesure les plus lourdes nécessités d'une partie de la société aux plus légères frivolités de l'autre. Équilibre étrange qui s'établit entre les fantaisies d'en haut et les besoins d'en bas. Plus il y a de fleurs et de dentelles dans le plateau qui monte, plus il y a de pain dans le plateau qui descend. Fin de citation. Le gaspillage le plus inutile et le plus ridicule devient une des voies mystérieuses de la divine providence pour créer l'harmonie sociale, basée sur la misère besogneuse et la richesse oisive. Jamais le luxe n'a été plus magnifiquement glorifié. Lorsque l'événement, l'organe de la fraternité hugoïste, publia son apologie du luxe, 2 mois à peine s'étaient écoulés depuis l'insurrection de juin, se protait de la misère, et le sang de la guerre civile rougissait encore le pavé des rues. Les mots, dont Hugo enrichit son vocabulaire après 1848, lui portèrent tort dans l'esprit des prud'hommes. Il les ahurissait au point de leur faire prendre des vessies pour des lanternes et l'écrivain pour un socialiste, pour un partageux. Victor Hugo partageux. Mais plutôt que de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit, il aurait immolé de sa main tous ses exécuteurs testamentaires et tout le premier son cher, son bien-aimé Vacry, qui ne pouvant se tuer sur son catafalque, ainsi que les serviteurs sur les bûchers des héros antiques, voulut être enseveli en effigie dans le tombeau du maître. Le poète était digne d'un tel sacrifice. Hugo fut en effet un héros de la phrase. La révolution de 1848 lança dans la langue honnête et modérée un peuple nouveau de mots. Depuis la réaction littéraire commencée sous le consulat, il dormait dans les discours, les pamphlets, les journaux et les proclamations de la grande époque révolutionnaire, et ne s'aventurait en plein jour que timidement, dans le langage populaire. Les bravages du romantisme, les Janins, les Gautier, reculèrent épouvantés. Mais Hugo ne cligna pas de l'œil. Il empoigna les substantifs et les adjectifs horrifiants qui envahissaient la langue écrite dans les journaux et parlait à la tribune des assemblées populaires. Et prestidigitateur merveilleux, il jongla à étourdir les badauds avec les immortels principes de 1789 et les mots teints encore du sang des nobles et des prêtres. Il ouvrit alors au romantisme une carrière qu'il fut seul à parcourir. Ses compagnons littéraires de 1832, plus timides que les bourgeois dont ils s'étaient moqués, n'osèrent pas suivre celui qu'ils appelaient leur maître. Victor Hugo lui-même semble avoir été intimidé par les expressions révolutionnaires qu'il maniait et dont il ne comprenait pas exactement le sens. Il voulut s'assurer de n'avoir commis, par erreur, même en pensée, de péché socialiste. Il fit son examen de conscience dans son autobiographie et il se convainquit que lui, qui avait écrit sur les pauvres gens la misère et d'autres sujets de composition rhétoricienne, des tirades à paver le palais Bourbon, il n'avait demandé qu'une seule réforme sociale, l'abolition de la peine de mort, la première de toutes, petit être. Et encore, il pouvait se dire qu'il n'avait fait que suivre l'exemple de tous les apôtres de l'humanitairie, depuis Guizot jusqu'à Louis-Philippe. Et que tout d'abord, il n'avait envisagé la peine de mort qu'à un point de vue littéraire et fantaisiste, comme un excellent thème à déclamation verbeuse, à ajouter au « croix de ma mère », la voix du sang, et autres trucs du romantisme qui commençaient à s'user et à perdre leur action sur le gros public. Un socialisme qui se limite à cette réforme sociale pratique, l'abolition de la peine de mort, n'est de nature qu'à inquiéter les bourreaux dont il menace les droits acquis. Et cela ne doit pas étonner si lors de la publication de la Bible socialiste de Hugo, Les Misérables, il ne se soit trouvé que Lamartine vieilli pour se scandaliser, que 30 ans après Eugène Sue, le seul homme qui, selon Théodore de Bainville, avait quelque chose à dire, osa s'apitoyer sur un homme envoyé aux galères pour le vol d'un pain et sur une pauvre fille se prostituant pour nourrir le bâtard du bourgeois qu'il a abandonné enceinte. C'était en effet vieillot et enfantin. Mais là où Victor Hugo étale grossièrement son esprit bourgeois, c'est lorsqu'il personnifie ces deux institutions de toute société bourgeoise, la police et l'exploitation, dans deux types ridicules. Javert, la vertu faite mouchard, et Jean Valjean, le galérien qui se réhabilite en amassant en quelques années une fortune sur le dos de ses ouvriers. La fortune lave toutes les tâches et tient lieu de toutes les vertus. Hugo, ainsi que tout bourgeois, ne peut comprendre l'existence d'une société sans police et sans exploitation ouvrière. L'adoration du dieu propriété, c'est la religion de Victor Hugo. À ses yeux, la confiscation des biens de la famille d'Orléans est un des plus affreux crimes de Napoléon III. Et s'il avait été membre de l'Assemblée de Versailles, il aurait, sur la proposition de M. Thiers, voté les 50 millions d'indemnités aux d'Orléans, par respect pour la propriété. Sa haine des socialistes, qu'il dénonça si férocement en 1848, est si intense que dans sa classification des êtres qui troublent la société, il place au dernier échelon Lassner l'assassin et immédiatement au-dessus Babeuf le communiste. Note. Plus bas que Marat, plus bas que Babeuf, il y a la dernière sape et de cette cave sort Lassner. Les Misérables, tome 6, page 61-62, première édition. Fin de note. Des gens qui seraient de la plus atroce mauvaise foi, s'ils n'étaient des ignorants et des oublieux, ont prétendu que l'homme qui, en novembre 1848, écrivait que l'insurrection de juin est criminelle et sera condamnée par l'histoire comme elle l'a été par la société, si elle avait réussi, elle n'aurait pas consacré le travail, mais le pillage. Événement numéro 94. Que cet homme avait déserté la cause de la sacrée propriété et pris la défense de l'insurrection du 18 mars. Et cela parce qu'il avait ouvert sa maison de Bruxelles aux réfugiés de la Commune. Mais dans sa bruyante lettre, tout chez Hugo est réclame, et plus tard, dans son année terrible, n'a-t-il pas protesté avec indignation contre les actes de guerre de la Commune? N'a-t-il pas injurié les communards aussi violemment qu'autrefois les bonapartistes, les stigmatisant avec les épithètes de fusilleurs d'enfants de 15 ans, de voleurs, d'assassins, d'incendiaires? Mais les radicaux et le si hugolâtre Camille Pelletan ont dû trouver que Victor Hugo les compromettait dans son incontinence d'insultes et de calomnies contre les vaincus de la Semaine sanglante. Qu'y avait-il donc de si extraordinaire dans l'acte de Victor Hugo, pour troubler ainsi les pessards de la presse versaillaise? Est-ce que malgré les pressantes sollicitations de M. Thiers et Favre, les ministres de la reine Victoria et du roi Amédée n'ont pas ouvert leur pays, l'Angleterre et l'Espagne, à ces vaincus qui n'ont jamais insulté ainsi que Victor Hugo? Personne n'accusera ces hommes d'État de pactiser avec les socialistes et les ennemis de la propriété. En Suisse, en Belgique, en Angleterre, partout enfin, des bourgeois, tout ce qu'il y a de plus bourgeois, n'ont-ils pas ouvert leurs bourses pour secourir les proscrits sans pain et sans travail, ce que n'a jamais fait Victor Hugo, l'ex-proscrit millionnaire. Que les légitimistes qui avaient nourri, choyé, prôné, décoré Victor Hugo conservent pieusement une amère rancune contre le jeune Eliassin, qui les lâche dès que la révolution de 1830 leur arrache des mains la clé de la cassette aux pensions, rien de plus naturel. Qu'il l'accuse de désertion, de trahison, rien de plus juste. Cependant, le père de France de la monarchie orléaniste, qui faisait porter à sa mère le poids de son royalisme, eût pu expliquer son orléanisme par son amour de la morale et leur dire « Moi, l'homme toujours fidèle au devoir, j'ai dû obéir au commandement d'une morale plus haute que la reconnaissance. J'ai obéi aux injonctions de la morale pratique. Pas d'argent, pas de Suisse, ni de poète. Mais les anciens patrons de l'écrivain dépassent toute mesure, quand pour nuire à l'écoulement de sa marchandise parmi les gens pieux, ils le calomnient et l'appellent un impie. Rien de plus faux. Victor Hugo eut le malheur de naître de parents impies et d'être élevé au milieu des impies. Sa mère ne lui permit pas de manger du bon Dieu, mais lui donna en revanche pour professeur des prêtres sceptiques qui, pendant la Révolution, avaient jeté aux orties la soutane et le bréviaire. Note. La brigande vendéenne était une voltairienne décidée. À Madrid, elle plaça ses enfants au collège des nobles, mais s'opposa énergiquement, malgré la résistance des prêtres directeurs, à ce qu'ils servissent la messe comme les autres élèves et défendit même qu'on fît confesser et communier ses enfants. Fin de note. Et cependant, une foi ardente s'éveille subitement dans son âme, le jour même que le trône et l'autel, l'un supportant l'autre, sont replacés sur leurs pieds. Il étrangle alors son voltairisme et chante la religion catholique, ses pompes et ses pensions. Note. Dans une épître en vers de 1818, mais publiée en 1863, Hugo dit en parlant de lui-même « J'ai 16 ans, je lis l'esprit des lois et j'admire Voltaire. » Fin de note. Les légitimistes ne reconnaissent-ils pas là le signe certain d'une foi sincèrement opportuniste? Ils se montrent exigeants à l'extrême quand ils demandent que ce catholicisme d'occasion survive aux causes qu'il avait engendrées. Ils n'avaient qu'à rester les maîtres du pouvoir pour que Hugo conservât jusqu'à sa 83e année la foi au Dieu des prêtres. Mais il dut se rendre à l'évidence et suspendre son culte pour ce Dieu qui cessait de révéler sa présence réelle par la distribution de pensions. C'est ainsi qu'un banquier coupe le crédit de son client ruiné, filant sur la Belgique. La Révolution de 1830 remit à la mode Voltaire et la libre pensée. Victor Hugo, ce tournesol, que sa nature condamnait à tourner avec le soleil, déposa, comme une cuisinière son tablier, son légitimisme et son catholicisme de circonstance. Il avait de nouveaux maîtres à satisfaire. Il adora le dieu des bonnes gens de Béranger et brûla Jéhovah, le dieu farouche et sombre, qui cependant convenait mieux à son cerveau romantique. Ce changement de dieu prouve la sincérité de son déisme. Il lui fallait à tout prix un dieu. Il en avait besoin pour son usage personnel, pour être un prophète, pour être un trépied. Note. Le poète est lui-même un trépied. Il est le trépied de Dieu. William Shakespeare, par Victor Hugo, page 53. Fin de note. Il s'éleva sans difficulté jusqu'au niveau de la grossière irréligion de ses lecteurs. Car on ne lui demandait pas de sacrifier les effets de banale poésie que le romantisme tirait de l'idée de Dieu et de la charité chrétienne, sur qui les libres penseurs se déchargent du soin de soulager les misères que crée leur exploitation. Il put même continuer à faire l'éloge du prêtre et de la religieuse, ces gendarmes moraux que la bourgeoisie salarie pour compléter l'œuvre répressive du sergo et du soldat. Note. Rien ne se pénètre, ne s'amalgame plus aisément qu'un vieux prêtre et un vieux soldat. Au fond, c'est le même homme. L'un s'est dévoué pour la patrie d'en bas, l'autre pour la patrie d'en haut. Pas d'autre différence. Les Misérables. Il n'y a pas d'œuvre plus sublime, peut-être, que celle que font ces âmes, les religieuses. Et nous ajoutons, il n'y a pas de travail plus utile. Il faut ceux qui prient pour ceux qui ne prient jamais. Les Misérables. Victor Hugo a eu l'heureuse chance d'être beaucoup acheté, ce à quoi il tenait surtout, et d'être peu lu. Et il le sera de moins en moins. Autrement, il y aurait beau jour que le siècle, ailé au taxil, aurait été forcé de le laisser pour compte aux catholiques. Fin de note. Victor Hugo est mort sans prêtre ni prière, sans confession ni communion. Les catholiques en sont scandalisés. Mais les gens à bon Dieu ne peuvent lui reprocher d'avoir jamais eu une pensée impie. Son gigantesque cerveau resta hermétiquement bouché à la critique démolisseuse des encyclopédistes et aux théories philosophiques de la science moderne. En 1831, un débat scientifique passionna l'Europe intellectuelle. Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire discutaient sur l'origine et la formation des êtres des mondes. Le vieux Goethe, que Hugo appelle dédaigneusement le poète de l'indifférence, l'âme remplie d'un sublime enthousiasme, écoutait résonner ces deux puissants génies. Hugo, indifférent à la philosophie et à la science, consacrait son immense génie qui, embrassait dans son immensité le visible et l'invisible, l'idéal et le réel, les monstres de la mer et les créatures de la terre, à basculer la balance hémistiche et à rimer nombril et avril, juif et suif, gouine et baragouine, marango et limbago. Trente ans plus tard, Charles Darwin reprenait la théorie de Saint-Hilaire et de Lamarck, son maître. Il la fécondait de son vaste savoir et de ses découvertes géniales, et, triomphante, il l'implantait dans la science naturelle et renouvelait la conception humaine de la création. Hugo, le penseur du XIXe siècle, que les hugolâtres nomment le siècle de Hugo, Hugo, qui portait dans son crâne l'idée humaine, vécut indifférent au milieu de ce prodigieux mouvement d'idées. Il poeta sovrano, qui passa la plus grande partie de sa vie à courir dans les catalogues de vente et les dictionnaires d'histoire et de géographie, après les rimes riches, ne daigne pas s'apercevoir que lamarckisme, darwinisme, transformisme rimaient plus richement encore que fin et génovéfain. Note du lecteur. Un génovéfain est un chanoine de la congrégation de Sainte-Geneviève. Fin de note.